Yes, we can.
Ils sont vénézuéliens et fuient leur pays.
Depuis des temps immémoriaux, vit ici un peuple qui vénère les femmes. Ce sont les Mozos.
Ici, le monde, c'est un voyage en trois escales de ce qui fait l'actualité à l'étranger. Cap ce matin sur Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique. Face à l'emprise croissante et la violence des gangs dans le pays, une coalition internationale va se mettre en place. 18 pays sont prêts à participer à une nouvelle force multinationale appelée à remplacer la mission actuelle de l'ONU. Les premiers déploiements sont attendus dès le début de cette année, l'idée étant que ces pays travaillent tous ensemble selon les mêmes règles. La force de sécurité devrait compter 5 500 soldats, conformément à la feuille de route élaborée sous la direction des États-Unis. Est-ce une bonne chose? Cela veut-il dire que le monde se préoccupe enfin d'Haïti? On en parle avec Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques et chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental. Monsieur Thomas, 5 500 soldats pour lutter contre l'insécurité et le fléau des gangs. Sur le papier, ça ressemble à une bonne nouvelle.
Donc, on pourrait espérer, surtout dans une situation de crise où on compte plus de 16 000 personnes tuées dans les violences des gangs depuis 2022, avec 1,4 million de personnes déplacées internes, soit 12% de la population, qu'enfin, on va changer la donne avec cette force. Mais il faut se rendre compte que c'est la 8e mission multinationale armée en Haïti depuis 1994, donc tous les 3 ans, que ces missions avaient chaque fois pour objectif de stabiliser, de sécuriser le pays. Force est de reconnaître que ça ne marche pas. Or, on est toujours face à des effets d'annonce sur 18 pays, etc. Mais très concrètement, on ne sait toujours pas combien de personnes vont pouvoir venir, quels sont les pays qui vont financer cette mission, et on sait que c'est très compliqué. Et la stratégie globale de cette mission reste très confuse. On parle, elle est très focalisée sur son aspect militaire, mais son aspect plus global, politique, et s'attaquer aux racines de l'insécurité, là, ça reste toujours très flou.
Ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'il y a une mission. Vous l'avez dit, les précédentes n'ont pas vraiment abouti. Pourquoi ?
Mais c'est à la fois un manque d'efficacité, de coordination et de légitimité. C'est-à-dire que ces missions-là ont eu tendance toujours à se substituer à la police et aux institutions publiques, à les affaiblir davantage et à répondre prioritairement à la vision de l'élite haïtienne et des acteurs internationaux plutôt qu'à la population locale. On sait que les gangs armés aujourd'hui en Haïti ont été instrumentalisés par la classe politique et par l'élite économique. Ils ont des liens avec cette élite économique et politique. Et donc, c'est d'abord ces liens qu'il faut rompre. Or, aujourd'hui, on se trouve encore une fois avec les principaux acteurs qui sont responsables de la crise, à savoir les acteurs internationaux et la classe politique et économique haïtienne, qui sont en charge de trouver une solution à cette crise sans consulter la population.
Est-ce que cette force internationale a une chance parce qu'elle doit être acceptée par l'armée, par la population ?
Donc cette force-ci, elle est censée être plus forte, 5 500 personnes, plus offensive et qui irait directement combattre les gangs armés. Donc de fait, oui, il y a des réticences et une défiance auprès de la police en Haïti, aussi de la population, en disant mais pourquoi toujours faire appel à des forces extérieures et ne pas renforcer la police locale. Mais le déploiement de cette force, au-delà de ces questions-là, elle va poser problème parce que d'une part, elle est censée venir en soutien à une police qui est elle-même décriée, qui manque de moyens, mais aussi décriée parce qu'elle est en partie corrompue et en partie liée à ses gangs. Et ça va envoyer des forces issues de différents pays intervenir dans une zone qu'ils ne connaissent pas. Ils ne parlent pas créole, ils vont affronter des gangs armés qui, eux, connaissent très bien le terrain, sont implantés dans des quartiers densément peuplés où une majorité de ces bandes armées sont composées de mineurs. Donc on est face à un multiple risque de violation des droits humains et d'atteinte aux populations civiles.
Vous pensez que cela va impressionner les gangs ?
Mais malheureusement, aujourd'hui, ces bandes armées, elles se sont renforcées, elles sont davantage armées, elles ont davantage de ressources économiques, elles se sont liées au trafic transnational de drogue, a été devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Donc, elles sont en train de se préparer, de construire un peu des bastions dans les quartiers où elles sont, en vue d'affronter ces forces. Elles savent qu'elles sont confrontées à des effets d'annonce plutôt qu'à une réalité de troupes sur le terrain. Américains qui vont venir les combattre. Ce qui les inquiéterait beaucoup plus, et ce qui malheureusement ne fonctionne pas, c'est un embargo sur les armes. L'ONU a voté depuis 2022 un embargo sur les armes qui ne fonctionne pas. Ces bandes armées continuent à s'approvisionner en armes à 90%, elles proviennent des États-Unis. C'est une vraie passoire, et donc elles ont les ressources économiques, elles ont l'accès au financement, elles ont l'accès aux armes, et elles ont les relais politiques et économiques au sein d'Haïti qui leur permettent d'assurer leur impunité, leur puissance.
On pourrait peut-être rappeler quelle est la situation politique aujourd'hui en Haïti.
On est face à un gouvernement de transition qui devait organiser des élections avant pour une passation de pouvoir le 7 février 2026. Elle n'a pas pu organiser ces élections, donc ça fait 4 ans que ces élections sont repoussées. Des élections sont annoncées maintenant le 30 août 2026, des élections présidentielles et législatives. Or, je vous annonce un scoop, il n'y aura pas d'élection le 30 août, pas en tout cas pas d'élection légitime, crédible et libre. Et donc, c'est aussi problématique parce que ça constitue le levier politique de légitimité de la force militaire qui va être déployée. Or, aujourd'hui, on le sait déjà, tous les observateurs qui sont honnêtes reconnaissent que ça ne sera pas possible. Les bandes armées contrôlent l'essentiel de la capitale et de départements autour, une masse de votants potentiels, si bien qu'il n'y aura pas d'élection en 2026. Donc, on est aussi face à une illégitimité du pouvoir haïtien qui est censée venir appuyer une force multinationale qui, elle-même, souffre de légitimité. D'où le caractère boiteux de cette stratégie.
Et puis surtout, comment vivent les Haïtiens aujourd'hui? C'est loin d'être évident.
Oui, et donc de fait, malheureusement, les populations comptent surtout sur elles-mêmes, sur les organisations elles-mêmes. Si aujourd'hui Haïti ne s'est pas encore effondré, ce n'est pas grâce à son gouvernement ni aux acteurs internationaux, mais bien au niveau de la multiplicité d'organisations sociales, au niveau de la société civile, qui maintiennent le pays debout, mais qui est épuisé.
Frédéric Thomas, je rappelle que vous publiez ces jours-ci « Haïti, briser le rêve colonial » chez Seuil. Deuxième étape, Mayotte dans l'océan Indien. Le département français le plus pauvre, touché il y a un an par un cyclone dévastateur, Chido. Depuis, des milliers de familles sinistrées vivent toujours dans des conditions de grande difficulté. Même si la vie a repris son cours, les fêtes de fin d'année n'ont pas été celles espérées. Reportage.
Un an après Chido, cette famille de Mamoudzou est loin d'être un cas isolé. Nous sommes chez Laura, 30 ans.
Ça, c'est mon salon. Donc, vous voyez, tout est tombé en fait. Dès qu'il y a de la pluie, un peu de vent, ça rentre.
Avec ses enfants de 4 et 2 ans, en pleine saison des pluies, la famille vit à ciel ouvert en attendant de pouvoir enclencher leurs travaux.
Ça fait un an et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse encore favorable de mon assurance. Donc depuis Chido, ça n'a pas changé entre les infiltrations d'eau à chaque pluie. J'ai rafistolé avec des toitures que j'ai récupérées par-ci par-là pour reboucher la partie de la toiture qui est partie. Ça fait un an qu'on vit dans le rafistolage entre les seaux d'eau et les serpillères.
Selon la Fondation pour le logement, 180 000 Mahorais vivent aujourd'hui dans cette même situation.
C'est Mayotte, c'est comme ça, c'est du provisoire qui dure. Psychologiquement, c'est difficile quand même de se dire que ça avance pas. Quand ça va changer? Quand j'aurai ma maison comme avant?
Des parents également inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Nous sommes à Kungu, au nord de l'île, un an après Chido. Les élèves de cette école primaire n'ont toujours pas réintégré leur école.
Nous parents, on est perdus. Ça fait un an. On nous dit, oui, après les vacances d'octobre, après les vacances de juillet, après, on ne voit pas le bout. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète vraiment beaucoup pour l'éducation des enfants et le suivi. C'est invivable.
Installé dans des préfabriqués, le temps des travaux, le temps de classe est réduit à 2 heures par jour.
Ma fille, elle a 7 ans. Elle va à l'école de 9h30 à 11h30. Elle va prendre du retard. Elle voudrait avoir cours toute la journée. Ils ont dit que ça va reprendre normalement. On n'a pas le choix, on fait avec, on vit avec.
Avec 40% des écoles endommagées, les capacités d'accueil scolaire de l'île ont été divisées par 4 depuis le passage du cyclone. Sur les hauteurs de Kawini, au centre de l'île, cette famille n'est toujours pas raccordée au réseau d'eau potable.
On stocke de l'eau ici, dans ces citernes, mais avec la chaleur, elle tourne vite. Au bout de quelques jours, on tombe souvent malade.
9 personnes vivent ici sous un même toit. Pour sécuriser leur consommation en eau potable, un kit de filtrage a été installé dans la cuisine par une association.
Ce que vous voyez là, c'est le kit à gravité céramique qui permet de filtrer 20 000 litres sur un espace de 3 ans.
Ma fille avait des vomissements et des diarrhées. Avec ce filtre à eau, c'est terminé.
Ce filtre, en fait, est devenu comme une solution vraiment d'urgence. Aujourd'hui, elle est en sécurité en matière d'eau. Elle est autonome en eau potable.
750 filtres ont ainsi été distribués dans le quartier par le Secours Populaire. Distribuer des packs d'eau en urgence, comme l'a fait l'État après Chédou, ne suffit pas. Il faut désormais agir sur le terrain auprès des familles pour changer leur situation, explique Christian Cos, coordinateur du projet.
Ça ne sert à rien de leur amener un pack d'eau. Demain, et on va amener encore un pack d'eau, et encore demain, et dans 10 ans, on amènera encore un pack d'eau. Non, il faut trouver les vraies solutions qui leur permettent de vivre. Les gens à Mayotte, on peut avoir accès à de l'eau dans les rivières, dans des forages, mais cette eau, il faut la purifier pour pouvoir la consommer. Et donc le filtre, c'est vraiment une nécessité pour assurer derrière la santé publique, la santé des personnes, à consommer une eau pure pour ne pas attraper de maladies et complexifier encore les situations.
Dans le 101e département français, 30% des habitants de l'île n'ont toujours pas accès à l'eau potable, s'indigne l'association.
Un reportage de Laurent Kramer pour France Inter. Dernière étape, la Grande-Bretagne et surtout l'Écosse, dans une ville bien connue, Édimbourg. Une ville qui abrite la célèbre université du même nom et qui, pour des millions de fans d'un petit sorcier portant au front une cicatrice, représente le Saint Graal. Harry Potter est né sous la plume de J.K. Rowling. Depuis près de 20 ans, des visites guidées, des Harry Potter Tours existent. Mais ces derniers temps, ces visites ont été revues et corrigées. Pas toutes, mais un certain nombre. On en parle avec notre correspondante sur place, Emeline Vin. Emeline, vous êtes à Édimbourg. Pourquoi Édimbourg ? C'est là que tout a commencé ?
Oui, Édimbourg qui est un véritable poudlard à ciel ouvert. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais ce sont des petites rues en pierre, toutes sinueuses, avec trône au-dessus de la vieille ville, ce château en pierre qu'on croirait tout droit sorti de l'œuvre de J.K. Rowling.
Les tours Harry Potter existent depuis longtemps. Si on en parle aujourd'hui, c'est aussi à cause de l'autrice J.K. Rowling dont les prises de position font polémique. Vous nous remettez dans le contexte ?
J.K. Rowling, depuis quelques années, a adopté des positions conservatrices qu'on peut qualifier de transphobes. En fait, elle ne reconnaît pas qu'une femme transgenre est une femme. Pour elle, une femme transgenre, en fait, reste un homme. Au-delà de ça, il y a ce qui tient de l'opinion, mais surtout, J.K. Rowling, vous le savez, est devenue très, très riche depuis la création d'Harry Potter. Et en fait, elle utilise sa fortune au profit de son idéologie, elle finance des associations transphobes et surtout des affaires en justice. Elle soutient les frais juridiques de certaines personnes qui poursuivent le gouvernement en justice. Et rien que cette année, la Haute Cour de justice est revenue sur certains droits des personnes transgenres, en particulier grâce ou à cause du financement apporté par J.K. Rowling.
Les tours Harry Potter sont donc aujourd'hui adaptées ?
Ces tours aujourd'hui, oui, ils sont un peu contraints de s'adapter. Il y a certains guides qui carrément ont arrêté de faire des tours Harry Potter. Il y a un choix risqué économiquement parce que beaucoup de personnes, quand elles se rendent à Édimbourg, ont envie de toucher un peu cet univers Harry Potter parce que c'est le berceau de la saga. D'autres ont décidé de reverser une partie de leurs bénéfices, aux associations de défense des droits des personnes LGBT. Alors, à noter que ces tours, ils n'ont pas versé de droits d'auteur à J.K. Rowling. Ça fait partie un peu de la licence créative, comme on appelle ça en anglais. Mais choisissent d'utiliser l'univers créé par J.K. Rowling pour en fait soutenir les causes qu'elle-même combat en justice finalement.
Et justement, vous avez rencontré Bab Fraser, elle est organisatrice de tours Harry Potter.
Je proposais des tours Harry Potter et des tours LGBT, mais j'ai réalisé que c'était contradictoire. L'impact de J.K. Rowling était devenu indéfendable. Donc j'ai décidé de remplacer tous mes tours Harry Potter par des marches LGBT pour le mois des fiertés en juin.
Comment réagissent les fans ?
J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu deux écoles, ceux qui considèrent que c'est pas du tout leur combat, qui sont pas concernés, parce que les personnes transgenres, ça concerne une toute petite minorité de la population. Il y a une partie des femmes qui estiment que voilà, c'est pas leur combat, ils s'en préoccupent pas trop, sans pour autant défendre les idées de J.K. Rowling, bien entendu. Et puis il y a ceux qui sont au courant et qui sont un peu embarrassés parce qu'en fait, voilà, ils ont grandi avec cette œuvre. Si vous avez déjà lu Harry Potter, bon, c'est la bataille du bien contre le mal. C'est un jeune garçon qui a toujours été discriminé dans sa vie et qui finalement rassemble tout un peuple derrière lui contre une idéologie de haine et de eugénisme finalement. Donc voilà, il y a ces touristes, ces fans d'Harry Potter qui sont un peu embarrassés et du coup qui font plus attention, qui se renseignent sur où leur argent va aller. Alors il y a plein de boutiques de produits dérivés d'Harry Potter. Alors par exemple, ça va être, ils vont aller dans cette boutique, mais ils ne vont rien acheter. Ou alors, ils vont se mettre eux-mêmes à l'artisanat, par exemple, pour tricoter eux-mêmes les pulls des maisons Gryffondor, les pulls de Madame Weasley, en fait.
Et justement, vous avez aussi rencontré Estelle, une fan française.
Ça me pose pas de problème d'encore lire les livres, de regarder la saga, de profiter de cet univers qui m'a fait aussi grandir puisque j'ai découvert Harry Potter avec les livres. Mais voilà, je cautionne pas forcément les propos de l'autrice. J'essaye d'être discrète et de privilégier le seconde main. Voilà, ça permet d'éviter aussi encore de donner peut-être de l'argent à l'autrice par rapport à ses prises de position et tout, qu'on sait qu'ils sont un petit peu délicates quand même.
À noter que la fortune de J.K. Rowling est estimée à plus d'un milliard d'euros. Merci de nous écouter, merci d'être ouvert à l'actualité internationale.